Enfin, peut-être pas résoudre, mais démarrer pour de bon au moins. Le dernier débit porté par la pelure de Johnny indiquait le bar de Renaissance 5. Je m'y étais rendu dès le premier jour, naturellement. J'avais discuté avec plusieurs habitués, car il n'y avait pas de personnel humain, mais je n'avais trouvé personne qui se souvint de Johnny. J'y étais retourné deux fois sans avoir davantage de succès. Mais le troisième jour, j'avais bien l'intention de rester jusqu'à ce que quelque chose craque. Le bar était loin d'avoir la classe de la taverne aux boiseries et au cuivre où Johnny et moi étions allés sur TC carré. Celui-ci était coincé à l'étage d'une bâtisse lépreuse dans un quartier délabré à deux rues de la bibliothèque où Johnny passait ses journées. Ce n'était pas le genre d'endroit où il avait l'habitude de s'arrêter en allant sur la place où se trouvaient les cabines d'Istrance, mais c'était le lieu parfait pour discuter en privé avec quelqu'un qu'il aurait rencontré à la bibliothèque ou en chemin. Il y avait 6 heures que j'étais là, et je commençais à en avoir marre des cacahuètes salées et de la bière éventée, lorsqu'un vieux dépenaillé entra. Je compris tout de suite qu'il s'agissait d'un habitué à sa manière de pousser la porte sans s'arrêter ni regarder autour de lui, et de se diriger droit sur une petite table dans le fond où il commanda un whisky avant même que le méca-serveur fût parvenu à sa hauteur. Lorsque je m'approchais de sa table, je m'aperçus qu'il n'était pas tant dépenaillé qu'accablé, à l'image des hommes et des femmes que j'avais aperçus dans les boutiques ou aux étals du voisinage. Il leva vers moi des yeux rougis et résignés. « Vous permettez que je m'assoie 5 minutes ?»«
Ça dépend, Frangine. Vous vendez quoi ?»«
Je ne vends pas. J'achète. » Je m'assis, posai ma chope sur la table et fis glisser vers lui une photo bidime de Johnny en train d'entrer dans la cabine d'Istrance de TC carré. « Vous avez déjà vu ce Gus ?» Il jeta un coup d'œil à la photo, puis reporta toute son attention sur son whisky.
« C'est possible. »
Je fis signe au méca de nous servir une autre tournée. « Si vous l'avez vu, c'est votre jour de chance. » Il renifla et frotta le dos de sa main contre sa joue grise mal rasée.
« Si ce que vous dites est vrai, ce sera bien la première fois depuis une putain d'éternité. »« Combien ? Et quoi ?»
ajouta-t-il en plissant les yeux. Des renseignements. La somme dépendra de leur quantité. Vous l'avez vu ? Je sortis de la poche de ma tunique une coupure de 50 marks achetée au marché noir.
Ouais.
La coupure glissa sur la table, mais je gardai la main dessus. Quand ?
Mardi dernier, le matin.
C'était la bonne date. Je lui laissai les 50 marks et sortis un nouveau billet.
« Il était seul ?»
Le vieil homme s'humecta les lèvres.
« Attendez que je réfléchisse. »« Je ne crois pas, non. Il était là-bas. »
Il désigna une table dans le fond.
« Il y en avait 2 autres avec lui. L'un d'eux... C'est grâce à ça que je me suis rappelé.
Quoi ?» Il se frotta le pouce et l'index en un geste aussi éternel que la rapacité humaine. « Parlez-moi de ces 2 hommes, l'encourageai-je. »
« Le jeune, votre ami, il était avec un de ces mecs, vous savez, ces écolos qui portent la robe et qu'on voit souvent à la TVHD, avec leurs foutus arbres. »«
Des arbres ? Un templier ? » m'écriai-je sidéré. Qu'est-ce qu'un templier faisait dans un bar de Renaissance 5 ? S'il en avait après Johnny, pourquoi portait-il sa robe ? C'était comme si un assassin allait faire son coup en costume de clown.
C'est ça, un templier. Une robe brune et l'air oriental.
Un homme ?
Je vous l'ai déjà dit.
Vous ne pouvez pas le décrire mieux ?
Non, un templier, une grande perche. J'ai pas pu bien voir sa gueule.
Et l'autre ? Le vieux haussa les épaules. Je sortis un nouveau billet et le posai avec l'autre à côté de mon verre. Est-ce qu'ils sont arrivés ensemble, les 3 hommes ?
Attendez. Le Templier et votre copain sont arrivés les premiers. J'ai remarqué la robe avant que le deuxième les rejoigne.
Décrivez-moi le deuxième. Il fit signe au méca-serveur de lui remettre ça. Je tendis ma carte de crédit et le méca s'éloigna sur ses répulseurs bruyants.
« Comme vous, »
dit-il.
« Un peu comme vous. »
« Trapu ? Avec des jambes et des bras costauds ? Un lusien ? »
« Ouais, je sais pas, je suis jamais allé là-bas. »
Quoi d'autre ?
Pas de cheveux sur le front. Juste un truc que ma petite nièce en avait dans le temps. Une queue de cheval ? Ouais.
Il tendit la main vers les billets. Encore une ou deux questions, lui dis-je. Ils se sont disputés ?
Non, je crois pas. Ils parlaient tranquillement dans leur coin. Y a pas grand monde à cette heure-là.
Quelle heure était-il ?
10 heures du matin environ.
Cela coïncidait avec les indications de la pelure. Vous n'avez pas du tout entendu leur conversation ? Qui parlait le plus ? Il but une gorgée et plissa le front sous l'effort de la réflexion.
Le temps pliait au début. Votre copain se contentait de répondre à ses questions, je crois. Un moment, il a eu l'air surpris.
Choqué ?
Non, juste étonné. Comme si le mec à la robe brune lui avait dit une chose à laquelle il ne s'attendait pas.
Vous avez dit que le Templier parlait beaucoup au début. Ensuite, qui parlait le plus ? Mon copain ?
Non, celui à la queue de cheval. Ensuite, ils sont sortis.
Ils sont sortis tous les trois ?
Non, seulement votre copain et le mec à la queue de cheval.
Le Templier est resté en arrière.
Ouais, enfin, je crois bien. Je me suis levé pour aller aux chiottes. Quand je suis revenu, je crois bien qu'il était plus là.
De quel côté sont partis les deux autres ?
J'en sais rien, merde. J'étais là pour boire un coup, pas pour jouer aux espions.
Je hochai la tête. Le méca s'approcha aussitôt de nous, mais je l'écartai d'un signe de main. Le vieil homme fronça les sourcils en le regardant s'éloigner. Vous dites qu'ils ne se disputaient pas quand ils sont sortis. Rien ne pouvait laisser croire que l'un d'eux forçait l'autre à partir ?
Qui ça ?
Mon copain et celui à la queue de cheval.
Qu'est-ce que j'en sais, moi ?
Il reluqua l'argent entre ses mains crasseuses, puis le whisky dans le compartiment vitré du méca serveur. Il devait se dire qu'il n'obtiendrait plus de moi ni l'un ni l'autre.
Et d'abord, pourquoi voulez-vous savoir tous ces trucs ?
Je suis à la recherche de mon copain, lui dis-je. Je regardais autour de moi. Il y avait une vingtaine de consommateurs attablés. La plupart semblaient être des habitués. Qui d'autre aurait pu les voir ? Demandai-je. Y a-t-il quelqu'un d'autre ici qui se trouvait dans la salle ce jour-là ?
Personne,
fit-il d'une voix pâteuse. Je m'aperçus pour la première fois que ses yeux avaient exactement la même couleur que le whisky qu'il éclusait. Posant un dernier billet de 20 marks sur la table, je me levai en disant « Merci, mon vieux. »
« À votre service, frangine. »
Le méca roulait déjà vers lui avant que j'aie atteint la porte. Je retournai vers la bibliothèque, m'arrêtai quelques instants sur la place pleine de monde où se trouvaient les cabines d'Istrance, et fis le point de la situation. Jusqu'à présent, le scénario se présentait comme suit. Johnny avait rencontré le Templier. Ou bien celui-ci l'avait abordé, soit à la bibliothèque, soit en chemin, quand ils étaient sortis vers le milieu de la matinée. Ils avaient cherché un endroit tranquille pour discuter, et ils étaient entrés dans ce bar. Là, le Templier avait dit quelque chose qui avait surpris Johnny. Un homme avec une queue de cheval, peut-être un Lusien, les avait rejoints et s'était mêlé à leur conversation. Johnny et queue de cheval étaient ressortis ensemble. Quelque temps après, Johnny s'était distransporté sur TC carré, puis de là, en compagnie d'une autre personne, qui pouvait être queue de cheval ou le Templier sur Madieu, ou... Quelqu'un avait tenté de l'assassiner. Ou plutôt, l'avait assassiné. Trop de trous dans ce scénario. Trop d'inconnus et d'inconnus. C'était bien maigre comme résultat d'une journée de travail. J'étais en train de me demander si je devais retourner sur l'Usus lorsque mon perso grésilla sur la fréquence com privée que j'avais communiquée à Johnny.
« Hache la mien !» dit-il d'une voix âpre. « Venez immédiatement, s'il vous plaît. Je crois qu'ils ont recommencé. À vouloir me tuer. »
Les coordonnées qui suivirent étaient celles de son rucher de Bergson-Est. Je courus jusqu'aux cabines d'Istrance. La porte de l'appartement était entrebâillée. Il n'y avait personne dans le corridor. Aucun bruit ne venait de l'appartement. J'ignorais ce qui s'était passé au juste, mais cela n'avait pas alerté la police. Je sortis l'automatique de papa de la poche de mon manteau, introduisis une cartouche dans la chambre et activai le laser de visée, tout cela en un seul mouvement. J'entrais baissé, les deux bras tendus, le point rouge glissant sur les murs sombres, la gravure bon marché sur la cloison opposée, le couloir noir menant à l'intérieur de l'appartement. Le vestibule était vide. Le séjour et la fosse des médias étaient déserts. Johnny gisait par terre dans la chambre, la tête contre le bord du lit, Le drap était imprégné de sang. Il lutta pour se redresser, mais retomba. La porte-fenêtre derrière lui était ouverte et un vent moite et pollué montait de l'avenue. J'allais jeter un coup d'œil à l'unique placard, au petit couloir et au coin cuisine, puis je retournais inspecter la terrasse. La vue était spectaculaire de ce perchoir situé à 200 mètres d'altitude au moins sur la paroi de la ruche. Elle embrassait les 10 ou 20 kilomètres du boulevard. Le faîte de la ruche, ou du moins sa partie visible, était une masse sombre hérissée de poutrelles qui se trouvait à une centaine de mètres au-dessus de la terrasse. Des milliers de lumières, des néons et des publicités holo illuminaient l'avenue, formant au loin un nuage électrique de lumière floue. Il y avait des centaines de terrasses semblables sur cette paroi de la ruche, et elles étaient toutes désertes. La plus proche se trouvait à 20 mètres de distance. C'était le genre de truc que les agents immobiliers ne manquaient pas de souligner comme un avantage extraordinaire. Johnny avait dû payer les yeux de la tête pour avoir un appartement en façade. Pourtant, ces terrasses étaient totalement inutilisables en raison des violents appels d'air créés par les systèmes de ventilation du toit. Les courants d'air transportaient non seulement les poussières et les débris habituels, mais ils étaient chargés également des inévitables odeurs de mazout et d'ozone propres à tous les ruchers. Je rangeai mon automatique et me penchai sur Johnny. La blessure allait de la naissance de ses cheveux à son sourcil gauche. Rien de profond, mais ce n'était pas joli à voir. Lorsque je revins de la salle de bain avec un pansement adhésif pour l'appliquer sur son front, il s'était déjà redressé tout seul. « Que s'est-il passé ?» lui demandai-je.
« Deux hommes. Ils m'attendaient dans la chambre quand je suis entré. Ils ont neutralisé l'alarme de la terrasse.
Il faudra vous faire rembourser votre abonnement sécurité. Et ensuite ?»
J'ai résisté. Ils voulaient m'entraîner sur le palier. L'un d'eux avait une seringue, mais j'ai réussi à la lui faire sauter des mains.
Qu'est-ce qui les a fait fuir ?
J'ai déclenché l'alarme intérieure.
Mais pas celle du rucher ?
Non, je ne voulais pas que la sécurité intervienne.
Comment avez-vous été blessé ? Il eut un sourire gêné.
C'est ma faute. Quand ils m'ont lâché, j'ai voulu les poursuivre et j'ai glissé. Je suis tombé sur le coin de la table de nuit.
Pas très glorieux comme bagarre, ni d'un côté ni de l'autre. J'allumai une lampe et me penchai sur la moquette jusqu'à ce que je trouve la seringue qui avait roulé sous le lit. Johnny la regarda comme si c'était un serpent à sonnette. « Qu'en dites-vous » demandai-je. « Encore le sida 2 ?» Il secoua négativement la tête. « Je connais un endroit où ils pourront l'analyser, lui dis-je, mais à mon avis ce doit être un simple somnitranque. Ils voulaient vous forcer à les suivre. Ils n'avaient pas l'intention de vous supprimer. » Johnny toucha son pansement en faisant la grimace. Le sang continuait de couler.
« Pourquoi voudrait-on enlever un cybride ? »
murmura-t-il.
« Je n'en sais pas plus que vous, mais je commence à me demander si cette fameuse tentative de meurtre n'était pas plutôt une tentative d'enlèvement. » Il secoua de nouveau la tête sans rien dire. « Est-ce que l'un des deux hommes avait une queue de cheval ? » fis-je à brûle-pourpoint.
« Je n'en sais rien. » Ils portaient tous les deux une casquette et un masque à osmose.
Est-ce que l'un d'eux aurait pu être assez grand pour être un templier, ou assez fort pour être un lusien ?
Un templier ?
Fit Johnny, surpris.
Non. Le premier était de taille moyenne. Celui qui tenait la seringue, par contre, aurait pu être un lusien. Il était assez costaud.
Vous avez donc pu résister les mains nues à un lusien ? Utiliseriez-vous par hasard des bioprocesseurs ou des implants amplificateurs dont vous ne m'auriez pas encore parlé ?
Non, j'étais simplement hors de moi.
Je l'aidai à se mettre debout.
Ainsi, les IA peuvent se mettre en colère.
Moi, oui.
Venez, je connais une clinique automatique qui fait de bons prix. Ensuite, vous resterez quelque temps chez moi.
Chez vous ? Pourquoi ?
Vous êtes monté en grade. Vous n'avez pas seulement besoin d'une détective à présent, mais d'une protection rapprochée. Mon logement n'était pas répertorié comme un appartement dans le plan de zonage du rucher. C'était un loft, un entrepôt rénové repris à l'un de mes amis, qui avait eu quelques ennuis avec des requins de la finance. Il avait décidé, sur le tard, d'émigrer vers l'une des colonies des confins, et j'estimais avoir fait une bonne affaire en prenant cet endroit situé à 1 kilomètre de mon bureau.
L'environnement était peut-être un peu pénible et le vacarme des docks éclipsait parfois les conversations. Mais je disposais de 10 fois plus de place que je n'en aurais eu dans un appartement normal. Et cela me permettait d'utiliser mes haltères et tout mon équipement à domicile. Johnny semblait sincèrement intrigué par cet endroit. Pour ma part, je me serais donné des baffes tellement j'étais contente. Encore un peu, je me serais mis du rouge aux lèvres et aux ongles pour plaire à Saucy Brin. Pourquoi êtes-vous venu vous établir sur l'Usus ? Lui demandai-je. La plupart des gens qui sont nés sur un autre monde ont du mal à s'adapter à la gravité et trouvent les paysages insipides. Sans compter que vos recherches se font à la bibliothèque de Renaissance 5. Qu'est-ce qui vous attire ici ? J'écoutais gravement et attentivement ses explications. Ses cheveux étaient drus sur le sommet de la tête avec une raie au milieu et retombaient sur son col en petites boucles au burn. Il appuyait souvent la joue contre son poing quand il parlait. Je m'avisais subitement en l'écoutant que son intonation était en fait une absence d'accent propre à quelqu'un qui a appris un langage de toutes pièces, de manière parfaite mais sans les raccourcis nonchalants d'une personne dont c'est la langue maternelle. De plus, au fond de tout cela, je distinguais un rien d'accent chantant qui me rappelait la façon de parler d'un mont en l'air que j'avais connu autrefois et qui avait grandi sur Asquith, un monde éloigné et tranquille du Retz, colonisé par les premiers immigrants de l'expansion, originaires d'une région de l'ancienne terre appelée Île Britannique. « J'ai vécu sur un grand nombre de mondes, » me dit Johnny. « Ma fonction est d'observer. » En tant que poète, il secoua la tête, fit la grimace et porta la main à son pansement. « Non, je ne suis pas un poète, c'est l'autre qui l'était. » Malgré les circonstances, il émanait de Johnny une énergie et une vitalité que j'avais rencontrées chez très peu d'hommes. Je ne sais comment l'expliquer, mais j'avais vu des salles entières, pleines de personnages importants, se défaire puis se refaire autour de personnalités comme la sienne. Il ne s'agissait pas seulement de ses réticences et de sa sensibilité, mais d'une sorte d'intensité qu'il émettait même lorsqu'il se contentait d'observer. « Et vous ? » demanda-t-il. « Pourquoi vivez-vous ici ?»«
J'y suis né. » »« Vous avez quand même passé toute votre enfance sur Tau-Ceti Central. » Votre père était sénateur ?
Je ne répondis pas.
Beaucoup de gens s'attendaient à vous voir vous lancer dans la politique, poursuivit-il. Est-ce le suicide de votre père qui vous en a dissuadé ?
Ce n'était pas un suicide.
Ah bon ?
La justice et les médias ont conclu au suicide, murmurai-je d'une voix sans intonation, mais c'est faux. Mon père n'aurait jamais fait ça.
Il a donc été assassiné ?
Oui.
Malgré l'absence de tout suspect ou de mobile plausible ?
Oui.
Je vois,
me dit Johnny, dont les cheveux brillaient comme de l'airain à la lueur des lumières du dock qui filtraient à travers les vitres poussiéreuses.
Cela vous plaît d'être détective ?
Quand le boulot me réussit. Vous avez faim ?
Non.
Allons nous coucher dans ce cas. Vous pouvez prendre le canapé.
Et cela vous réussit souvent, le métier de détective ?
Nous verrons ça demain. Le lendemain matin, Johnny se transporta sur le vecteur Renaissance à peu près à son heure habituelle, attendit un moment sur la place, puis reprit le distrans jusqu'au musée de la colonisation sur Sol Draconis Septem. De là, il rejoignit le terminex principal de Nordholm et se transporta pour finir sur la planète des Templiers appelée le Bosquet de Dieu. Nous avions tout synchronisé à l'avance. Je l'attendais sur Renaissance 5, dans l'ombre de la colonnade. La troisième personne qui passa après Johnny fut un homme avec une queue de cheval. Un Lusien, aucun doute là-dessus. Avec son teint pâle, sa corpulence, sa musculature et sa démarche arrogante, il aurait pu être mon frère perdu depuis longtemps. Il ne regarda pas une seule fois dans la direction de Johnny, mais je peux dire qu'il fut surpris de voir le Cybride se diriger, en un mouvement tournant, vers les portes donnant sur les mondes extérieurs. Je demeurai dans l'ombre et ne pus qu'entrevoir sa carte, mais j'aurais parié n'importe quoi qu'il s'agissait d'un traceur. Il se montra extrêmement prudent à l'intérieur du musée. Il ne perdait pas Johnny de vue, mais regardait souvent derrière lui également. Je portais une chasuble de méditation zen gnostique avec visière d'isolation et tout le reste, et je ne tournais pas une seule fois la tête vers eux en contournant le bâtiment vers le portail d'Istrance pour me retrouver directement sur le bosquet de Dieu. Cela me faisait une drôle d'impression de laisser Johnny tout seul derrière moi pour traverser le musée et le Terminex de Nordholm, mais il s'agissait dans les deux cas de lieux publics très fréquentés et le risque était calculé. Johnny franchit le portail d'accès de l'Arbre-Monde juste à l'heure prévue. Il acheta un billet d'excursion. Son suiveur dut se dépêcher pour ne pas le perdre, courant à découvert pour sauter dans le glisseur omnibus avant son départ. J'étais déjà installé sur le pont arrière. Johnny trouva une place à l'avant, comme convenu. Je portais maintenant des vêtements de touriste, et mon imageur n'était que l'un des 10 ou 12 en action au moment où Queue de Cheval se dépêcha de prendre place au troisième rang derrière Johnny. La visite guidée de l'Arbre-Monde est toujours quelque chose de très marrant. Papa me l'avait fait faire dès l'âge de 3 années standard. Cette fois-ci, cependant, tandis que le glisseur se faufilait entre des rameaux de la taille d'une autoroute ou contournait un tronc de l'épaisseur du mont Olympe, je m'aperçus que je réagissais au regard détourné des Templiers en capuchonnet qui m'entouraient avec une sorte de malaise angoissé. Johnny et moi avions longuement discuté pour savoir quelle serait la manière la plus habile et la plus subtile de filer Queue de Cheval s'il se pointait, et de découvrir son repère pour y voir un peu plus clair dans son jeu, même si cela nous prenait des semaines. Mais finalement, j'optais pour une approche un peu moins en finesse. L'omnibus nous avait déposés près du musée du Muir, et les passagers se répandirent sur la place, déchirés entre l'envie de dépenser 10 marks dans un billet d'entrée destiné à parfaire leur culture, et celle d'aller directement à la boutique de cadeaux. Je m'avançais vers Queue de Cheval, lui agrippais le gras du bras et lui demandais sur le ton de la conversation « Salut, connard, tu peux me dire ce que tu veux à mon client ?» Il y a une opinion préconçue selon laquelle les Lusiens seraient aussi raffinés qu'une poire à lavement et à peu près aussi plaisants. S'il est vrai que je venais de contribuer à confirmer la première partie, Queue de Cheval ne se priva pas d'apporter de l'eau au moulin de la deuxième. Il réagit avec une rapidité foudroyante. Bien que la prise apparemment inoffensive lui paralysât les muscles du bras droit, le poignard qui avait surgi dans sa main gauche fendit l'air dans 2 directions différentes, vers le haut puis latéralement, en moins d'une seconde. Je me laissai tomber sur la droite. La lame passa à quelques centimètres de ma joue. Je touchai le sol et roulai plusieurs fois sur moi-même, tout en sortant mon neuro-étourdisseur. Puis je me redressai sur un genou pour faire face à la menace. Il n'y avait plus de menace. Queue de Cheval avait pris la fuite. Il s'éloigna en même temps de Johnny. Bousculant les touristes et zigzagant, il se dirigeait vers l'entrée du musée. Je remis l'étourdisseur dans son fourreau et me mis à courir aussi. Les neuro-étourdisseurs sont des armes formidables de près, aussi faciles à manier qu'une carabine, mais sans les effets secondaires fâcheux si d'innocents passants se trouvent dans leur rayon d'action. Au-delà de 8 ou 10 mètres, cependant, ils ne valent pas tripette. Sur faisceau large, je pouvais flanquer une bonne migraine à la moitié des touristes qui se trouvaient sur cette place. Mais Queue de Cheval était déjà trop loin pour être touché. Je n'avais plus qu'à courir. Je vis Johnny qui courait lui aussi vers moi. Je lui fis signe de s'en aller.
« Chez moi !»
lui criai-je.
« Mettez tous les verrous !»
Queue de Cheval avait atteint l'entrée du musée. Il se retourna pour me regarder. Il tenait toujours le poignard à la main. Je chargeais, exultant à l'idée de ce qui allait se passer dans les minutes suivantes. Queue de Cheval sauta par-dessus un tourniquet et écarta des touristes pour franchir les portes. Je suivis. Ce n'est que lorsque j'atteignis le grand hall voûté et que je le vis se frayer un chemin à travers la foule pour grimper par l'escalier mécanique en direction de la galerie d'excursion que je compris ce qu'il voulait faire. Mon père m'avait fait faire l'excursion des Templiers à l'âge de 3 ans. Les accès d'Istrance étaient ouverts en permanence. Il fallait environ 3 heures pour faire à pied le tour guidé de la trentaine de mondes où les écologistes templiers préservaient des fragments de la nature susceptibles, d'après eux, de faire plaisir aux muirs. Je ne me rappelais pas exactement, mais il me semblait bien que chaque parcours formait une boucle et que les portes étaient suffisamment proches les unes des autres pour que les guides templiers et les agents d'entretien puissent se déplacer partout sans difficulté. Merde ! Un gardien en uniforme devant le portillon s'aperçut de la confusion créée par Queue de Cheval et s'avança pour interpeller l'intrus. Bien qu'à 15 mètres de lui, je vis nettement le désarroi et l'incrédulité qui se figèrent sur le visage de cet homme âgé, probablement un retraité de la police locale, quand il tituba en arrière, le manche du long poignard de queue de cheval émergeant de sa poitrine. Il baissa la tête, le visage blême, posa sa main sur le manche de corne en hésitant, comme s'il s'agissait d'un gag, puis s'écroula la tête la première sur le carrelage de la galerie. Des touristes hurlèrent. Quelqu'un cria qu'il fallait un médecin. Je vis queue de cheval écarter un guide templier et foncer à travers la porte luminescente. Les choses ne se passaient pas tout à fait comme je l'avais prévu. Je bondis sans ralentir de l'autre côté de la porte. J'étais sur le versant glissant d'une colline herbeuse. Le ciel était jaune citron et les odeurs tropicales. Des visages étonnés se tournaient vers moi. Queue de cheval était déjà à mi-chemin de l'autre porte. Il coupait sans vergogne à travers des plantations florales élaborées et bousculait des forêts de bonsaï. Je reconnus au passage le monde de Fuji et dévalais la colline sur les chapeaux des roues, puis regrimpais sur ses traces à travers les plates-bandes déjà massacrées par queue de cheval.
« Arrêtez cet homme !»
m'écriai-je, conscience du ridicule de mon exhortation. Personne ne bougea naturellement, excepté une touriste nippone qui leva son imageur pour tourner une séquence. Queue de cheval regarda rapidement derrière lui, fonça au milieu d'un groupe de touristes pétrifiés et s'élança à travers la porte d'Istrance. J'avais de nouveau mon étourdisseur à la main. Je l'agitais en menaçant la foule.
« Écartez-vous ! Écartez-vous !»
Ils me firent précipitamment un passage. Je franchis prudemment la porte, étourdisseur levé. Queue de cheval n'avait plus son poignard, mais j'ignorais de quels autres joujoux il pouvait disposer. Plan d'eau miroitant, vaguelette mauve de Mare Infinitus. La passerelle en bois étroite passait à 10 mètres au-dessus des caissons de flottaison. Elle s'éloignait en direction d'un récif de corail féerique et d'une île de varech jaune avant de faire une boucle pour revenir à son point de départ. Mais un pont encore plus étroit offrait un raccourci pour gagner la porte suivante. Queue de cheval était en train d'escalader la grille qui portait une pancarte « Entrée interdite » et retombait agilement de l'autre côté pour reprendre sa course. Arrivé à la grille, je m'arrêtai, mis le sélecteur de mon arme sur faisceau serré et balayai l'espace devant moi d'un rayon invisible comme si j'étais un jardinier en train d'arroser sa pelouse. Queue de cheval sembla trébucher légèrement, mais réussit à parcourir les derniers 10 mètres qui le séparaient de la porte et à passer de l'autre côté. Je poussai un juron et escaladai à mon tour la grille, ignorant les injonctions d'un guide templier derrière moi. J'aperçus en un éclair la pancarte qui conseillait aux visiteurs de se couvrir de leur combinaison thermique, puis je me retrouvai de l'autre côté, sentant à peine un picotement au moment où je franchissais la porte d'Istrance. Le blizzard soufflait, fouettant le champ de confinement incurvé, qui transformait le parcours touristique en un tunnel transparent à travers la blancheur déchaînée de Sol Draconi Septem, ou tout au moins une partie de ces régions septentrionales, où les groupes de pression templiers de la Pangermie avaient mis le holà au projet de réchauffement atmosphérique de la colonie afin de sauver les spectres arctiques en péril. Je sentais le poids des 1,7G standard sur mes épaules, comme si c'était la barre de mon appareil de musculation. Dommage que l'autre ait été lui aussi un lusien. S'il avait été dans la moyenne physique du Retz, il n'y aurait eu aucun doute sur le vainqueur de cette course. Mais nous allions bien voir qui tenait la meilleure forme. Il avait une 50aine de mètres d'avance sur moi, et il se retournait sans cesse pour regarder par-dessus son épaule. La porte suivante ne devait pas être loin, mais le blizzard empêchait de distinguer quoi que ce soit en dehors du tunnel. Je galopais allègrement dans son sillage. Eu égard à la gravité, ce parcours était le plus court de toute l'excursion. Le tunnel s'incurvait à une 100aine de mètres à peine du point de départ vers lequel il nous ramenait. Je savais que je gagnais sur queue de cheval. J'entendais sa respiration haletante. Je n'étais même pas essoufflé. Il ne pouvait plus m'échapper. Nous avions dépassé aucun touriste jusqu'à présent et personne ne semblait nous poursuivre. Après tout, ce n'était pas un trop mauvais endroit pour lui tomber dessus et lui poser quelques questions. Il était à 30 mètres de la sortie lorsqu'il se retourna subitement, mit un genou à terre et pointa son pistolet thermique. Le premier tir fut trop court. Il ne devait pas avoir l'habitude de la gravité sur Sol Draconi. Mais le rayon avait tout de même laissé un sillon à 1 mètre de moi dans le sol gelé. Et il était en train d'ajuster sa visée. Je sortis du champ de confinement, enfonçant d'abord mon épaule dans la résistance élastique et titubant dans les congères qui m'arrivaient à la taille. Les rafales glacées me brûlaient les poumons. La neige forma une gangue sur mon visage et mes bras nus en l'espace de quelques secondes. J'aperçus queue de cheval qui me cherchait à l'intérieur du tunnel éclairé, mais le blizzard jouait maintenant en ma faveur et je fendis les congères pour me rapprocher de l'endroit où il se trouvait. Il passa la tête, les épaules et le bras droit à travers la paroi de confinement, clignant des yeux pour chasser les particules de glace qui se formaient instantanément sur ses joues et son front. Son second tir passa trop haut, mais je sentis la chaleur du rayon au-dessus de ma tête. J'étais maintenant à moins de 10 mètres de lui. Je réglai mon étourdisseur sur son faisceau le plus large et arrosai tout l'espace dans sa direction sans sortir la tête de la congère où je m'étais enfoncé. Queue de cheval laissa choir son pistolet dans la neige et tomba en arrière de l'autre côté de la paroi de confinement. Je poussai un cri de triomphe qui se perdit dans la tourmente et titubai en direction du tunnel. Mes pieds et mes mains étaient des prolongements lointains qui ne ressentaient plus ni le chaud ni le froid. Mes joues et mes oreilles, par contre, étaient en feu. J'essayais de ne pas y penser et me jetais de nouveau contre le champ élastique. C'était une enceinte de confinement de classe 3, prévue pour contenir les éléments et tout ce qui avait au moins la taille imposante d'un spectre arctique, tout en permettant aux touristes égarés ou aux agents d'entretien de rentrer sans problème dans le circuit. Mais j'étais sonné par le froid et je me cognais sans succès pendant plusieurs secondes contre la paroi molle, comme une mouche dans du plastique transparent, mes pieds dérapant sur la glace et la neige. Je réussis finalement à m'introduire lourdement dans le tunnel, non sans avoir à tirer mes jambes derrière moi. La soudaine chaleur du tunnel me communiqua un tremblement irrépressible. Des aiguilles de glace tombèrent partout autour de moi, tandis que je forçais d'abord mes genoux, puis mes pieds à soutenir mon poids. Je vis Queue de cheval qui parcourait péniblement les 5 mètres qui le séparaient de la porte. Son bras droit pendait comme s'il était cassé. Je connaissais le genre de douleur que peut causer un neuro-étourdisseur. Et je n'aurais pas voulu me trouver à sa place. Il tourna la tête pour me regarder tandis que je me remettais à courir, tant bien que mal, dans sa direction, puis il franchit la porte. Alliance Maui. L'atmosphère était tropicale et saturée d'odeurs de végétation et d'océan. Le ciel avait la couleur d'azur de l'ancienne terre. Je vis immédiatement que le parcours débouchait sur l'une des rares îles mobiles encore naturelles que les Templiers avaient sauvées de la colonisation hégémonienne. C'était une assez grande île de 500 mètres de long environ. De l'endroit où je me trouvais, sur une plateforme circulaire au milieu de laquelle se dressait le tronc-mât principal, j'apercevais les larges voiles qui se gonflaient avec le vent et les traînes bleues des lianes de gouvernail. La porte de sortie n'était qu'à 15 mètres de là, au pied d'un escalier, mais j'avais vu Queue de cheval courir dans la direction opposée, sur le sentier principal, vers une série de huttes et de stands touristiques situés non loin du bord de l'île. C'était le seul endroit, à mi-chemin du parcours touristique, où il était permis aux marcheurs fatigués de se reposer en achetant des rafraîchissements et des souvenirs au bénéfice de la fraternité des Templiers. Je m'élançai vers les marches, toujours frissonnante, mes vêtements pleins de neige qui fondaient rapidement. Pourquoi Queue de cheval se dirigeait-il vers ces huttes? Dès que je vis les tapis rutilants alignés pour les touristes qui désiraient les louer, je compris ce qu'il voulait faire. L'usage des Hawking était officiellement prohibé sur la plupart des monts du Retz, mais il faisait encore partie des traditions d'Alliance Maui à cause de la légende de Siri. D'une longueur de moins de 2 mètres sur 1 de large, ces antiques jouets attendaient les touristes pour les promener au-dessus de la mer et les ramener sur l'île mobile. Si Queue de cheval mettait la main sur un de ces tapis, je fonçais de toute la vitesse de mes jambes meurtries, rattrapais mon homme à quelques mètres des Hawking et le plaquais au-dessous des genoux. Nous roulâmes au milieu des étals et des quelques touristes qui s'écartaient en poussant des cris. Mon père m'avait appris quelque chose qu'un enfant ne peut ignorer qu'à ses risques et périls. Un grand gaillard, quand il est fort, peut toujours battre un plus petit que lui. Dans ce cas précis, nous étions à peu près à égalité. Queue de cheval se dégagea comme une anguille et bondit sur ses pieds, adoptant instantanément la posture de combat d'un lutteur asiatique, bras écartés, doigts tendus. Nous allions bien voir maintenant qui de nous deux était le gaillard le plus fort. Ce fut lui qui porta le premier coup au but. Il feinta de la main gauche à plat, doigts serrés, et lança à la place son pied en arc de cercle. J'esquivai, mais pas assez rapidement. L'impact fut assez fort pour me paralyser quelques secondes l'épaule gauche et le haut du bras. Queue de cheval recula en dansant. Je suivis. Il lança un direct du droit que je bloquais, puis une manchette de la main gauche que je parais avec mon avant-bras droit. Il recula en dansant, tourna soudain sur lui-même et balança un coup du pied gauche. J'esquivais. Je happais sa jambe au passage et l'envoyai rouler dans le sable. Il se releva d'un bond. Je le cueillis d'un crochet du gauche qui le fit tomber. Il roula plusieurs fois sur lui-même et se redressa sur les genoux. Mon pied vola et le heurta juste derrière l'oreille gauche. J'avais mesuré la force du coup de manière à le laisser conscient. Trop conscient, constatai-je la seconde suivante, lorsqu'il réussit à faire passer 4 doigts tendus sous ma garde, visant le cœur. Mais il ne réussit qu'à endolorir quelques couches de muscles sous mon sein droit. Je le cognai de toutes mes forces en plein sur la bouche, faisant gicler le sang. Il roula jusqu'au bord de l'eau et ne bougea plus. Derrière nous, les gens se bousculaient devant la porte d'Istrance et hurlaient pour que la police arrive. Je soulevais par la queue celui qui était censé vouloir assassiner Johnny, le tirais à l'écart près de l'eau et lui plongeais la tête dedans pour le faire revenir à lui. Puis je le fis rouler sur le dos et le soulevais par le col froissé et maculé de sa chemise. Nous n'allions pas avoir plus d'une minute ou deux avant que les autorités rappliquent. Il leva vers moi un regard vitreux. Je le secouai une bonne fois et me penchai pour dire « Écoute-moi bien, mon pote. Il faut que nous ayons, toi et moi, une conversation courte mais sérieuse. Pour commencer, je veux savoir qui tu es et ce que tu as contre la personne que tu suivais. » Je sentis la montée du courant avant de voir la lumière bleue. Je lâchai la chemise de l'homme en jurant. Aussitôt, tout son corps fut entouré d'un nimbe électrique. Je fis un bond en arrière, mais pas avant que mes propres cheveux se dressent et que toutes les alarmes de mon persoc se mettent à bourdonner impérieusement. Que de cheval ouvrit la bouche pour hurler, et je vis le bleu à l'intérieur comme des effets spéciaux holo réalisés avec peu de moyens. Le devant de sa chemise grésilla, noirci et prit feu. Sur son torse se formèrent des pustules bleues comme sur une ancienne pellicule de cinéma perforée par le feu. Les pustules s'élargirent, se touchèrent, s'élargirent encore. Je vis l'intérieur de sa cavité thoracique avec des organes entourés de flammes bleues. Il hurla de nouveau, cette fois de manière audible, et je vis ses dents et ses yeux se transformer en flammes bleues. Je fis un nouveau pas en arrière.